Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Au sommaire de ce 76e numéro de Force 7, grâce à la DLVA et la CCI 04, le dispositif Vie ma ville a mis les outils numériques au service des commerçants de l'agglomération Manosquine. Reportage dans ce magazine. À Digne, le pont des Arches est vieillissant et dangereux. Le département va le reconstruire. L'interview d'Eliane Bareil pour Force 7. L'UDE 04 a proposé une formation pertinente à des dirigeants et chefs d'entreprise. Le président Didier Long évoque cette université des entrepreneurs. Photographes réputés, Jean-François Mutzig et Frédéric Massé exposent à Sisteron des chevaux et des hommes, nous emmènent en Espagne. Chris Alessandri a interviewé les artistes. La MJC de Manosque affiche les concerts de sa capsule, c'est son club photo qui expose et c'est réussi. Reportage à la fin de ce magazine. Vie ma ville, DLVA et CCI 04 mettent les commerces en ligne.
C'est un dispositif qui permet de relancer la consommation locale en utilisant les outils numériques. La Chambre de commerce et l'agglomération Manosquine partagent cet objectif commun et ont fait appel à la société basalpine Dynamique. Son équipe est déjà active sur une vingtaine de villes des Alpes du Sud. Trois acteurs du territoire aux missions différentes mais qui tirent tous dans le même sens. Aujourd'hui, une boutique physique et de la publicité classique ne suffisent pas à développer un commerce à l'heure où les choix et achats peuvent se faire à tout moment, en tout lieu et sur le monde entier grâce à Internet et aux réseaux sociaux. La force de Vie ma ville est un mix subtil entre méthode moderne et commerce classique. Guidés par les développeurs et informaticiens de Dynamique, les commerçants du territoire ont pu bénéficier gratuitement du dispositif pendant 6 mois grâce aux 6600 euros de la DLVA et ils ont eu la possibilité de poursuivre l'expérience pour 29 euros mensuels, ce qu'ont souscrit 80% des 44 entreprises qui s'étaient lancées dans l'opération. Ainsi, le site vimaville.fr, Facebook et Instagram servent le commerce local et le bilan 2022 est positif, avec une augmentation avérée de la fréquentation en magasin. Écoutons le vice-président de la CCI, Jean-Pierre Pradalier, puis Léo Hakoun de la société Dynamique, mais d'abord Laurent Garcia pour Durance Luberon-Verdon Agglomération. Laurent Garcia, vice-président de la DLVA, qu'est-ce que c'est très exactement ce dispositif Vimaville ?
C'est un dispositif qui permet aux commerçants de digitaliser l'ensemble de leurs ressources informatiques et de leur commerce pour pouvoir mieux vendre sur Internet et se faire connaître grâce à la société Dynamique et au partenariat avec la CCIT.
Vous avez recensé les commerces intéressés ?
Oui, on est passé par toutes les associations de commerçants à ce sujet et on a vu avec eux quels étaient les commerçants qui étaient disponibles pour faire ce test.
Ça a été difficile de sensibiliser les commerçants à l'informatique et aux réseaux sociaux ?
Ben grâce au partenariat qui est avec la société Dynamique, c'est eux qui ont mené l'opération et qui nous ont beaucoup aidés et qui ont aidé les commerçants à pouvoir justement se digitaliser et être reconnus sur les réseaux sociaux tels Facebook et Instagram.
C'est un dispositif également qui est soutenu par la CCIT 04, mais également par DLVA. C'est bien ce partenariat ?
Ah ben c'est un partenariat qu'on doit renouveler, que je souhaiterais renouveler, mais pour l'instant, vu les difficultés que l'on rencontre, on en discutera peut-être l'année prochaine.
À vos côtés, votre partenaire du jour, c'est la CCIT 04, Jean-Pierre Pradalier, vous êtes vice-président de la CCI. Comment ça s'est passé cette opération Vie ma ville ?
Ça s'est très bien passé, d'abord parce qu'on a un acteur local avec Léo et Dynamique qui est un professionnel de qualité et qui déjà avait développé un peu son réseau et qui mettait à disposition des commerçants les outils digitaux. Et nous, en fait, on a été l'amplificateur, on a été le booster, c'est-à-dire qu'on a servi de booster, on leur a mis le pied à l'étrier. L'idée, c'était vraiment de les sensibiliser vraiment sur la nécessité, plus que l'opportunité, à un moment donné, de communiquer, de faire savoir aujourd'hui ce qu'ils sont en mesure de proposer à leurs clients. Donc Léo avait encore une fois développé son réseau, on a accéléré en fait le processus et ça s'est hyper bien passé, quoi.
Il y a eu déjà une proposition internet et sur les réseaux sociaux par la CCIT 04, c'était HomeOnDrive avec un bilan mitigé.
Oui, c'était pas tout à fait la même opération. On avait été, je dirais pas plus ambitieux, mais on avait une ambition différente avec HomeOnDrive puisque c'était vraiment l'ambition de vendre des produits en ligne et de créer une plateforme digitale collective où les commerçants affichaient leurs produits et les vendaient en ligne. Là, il ne s'agit pas tout à fait de la même chose. C'est moins, on va dire, c'est moins chronophage et c'est moins contraignant pour le commerçant, puisqu'il ne s'agit pas qu'il référence un catalogue de produits à mettre en vente. Il s'agit simplement de dire, voilà, je vais à un moment donné faire savoir ce que je fais à travers les réseaux tels que Facebook et Instagram. C'est un peu plus light au niveau du condensé, mais c'est quelque part déjà, je dirais, la première marche à la digitalisation. Moi, je disais ça tout à l'heure là, sur un point presse qu'on avait. Tous ensemble, je disais que l'ambition, à un moment donné, qu'on doit tous partager, c'est d'amener les commerçants au plus haut en termes de digitalisation, parce que je crois à la nécessité pour eux de développer le multicanal, c'est-à-dire d'avoir en même temps que leur boutique physique une vraie visibilité Internet qui passe certes par les réseaux sociaux, mais pas que. Un site de vente en ligne ou un site de vitrine, par exemple, c'est aussi une très belle idée de promotion. Donc on a franchi la première marche. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, etc., aujourd'hui, sont présents, ils sont reconnus. Je souhaite, et là j'invite la DLVA à ce qu'on participe ensemble à une réflexion globale, mais je souhaite véritablement qu'on aille plus loin dans la démarche. Il faut être un peu ambitieux. Et les commerçants nous attendent, là, ils ont besoin de nous parce que ça devient une nécessité, je dirais pas absolue, mais enfin, pour moi, ça devient une nécessité, oui.
Commerçants et la clientèle également. Mais c'est le commerce du 21e siècle, visiblement. À vos côtés, Léo Hakoun, qui a été le chef d'orchestre de cette opération avec Dynamic. Comment ça s'est passé pour sensibiliser les commerçants ?
Très bien, parce qu'en fait, on a un vrai savoir-faire sur discuter avec un commerçant, comprendre ses enjeux et surtout comprendre la difficulté du numérique et comment on peut faire pour allier commerce, proximité et numérique. Donc j'ai envie de dire, ça s'est très bien passé, modulo bien entendu, une phase pédagogique hyper importante parce que le sujet il est là, c'est pas de leur dire il faut que vous passiez, mais c'est il faut que vous passiez dans cette phase de digitalisation parce que, et donc essayer d'apporter une pédagogie la plus claire possible et la plus tangible possible pour qu'ils aient vraiment envie, parce que globalement le passage en force ne marchera jamais et encore moins chez les commerces de proximité.
Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans Vie ma ville ?
On y retrouve la vie de nos villes et plus particulièrement la vie des commerces de proximité. Comme je disais Jean-Pierre, l'idée c'est d'avoir une photographie du commerce de proximité et de son actualité en conséquence. L'idée c'est que vous, en tant qu'habitant finalement, vous puissiez connaître toute l'actualité commerciale et aussi événementielle de ce qui se passe autour de chez vous pour vous donner envie d'aller à la rencontre des commerçants ou d'aller rencontrer une association qui fait un événement. L'idée c'est vraiment de consommer votre ville, de consommer local sous tous les angles possibles.
Ça permet également aux commerçants de rayonner à l'extérieur du territoire de la DLVA.
Ça, c'est la puissance du numérique, c'est qu'on casse les frontières. On n'a pas cette notion vraiment géographique de où je suis implanté. C'est là on est implanté finalement dans quasiment tout le monde. Aujourd'hui, Vie ma ville, c'est une présence dans, en effet, tout le 04 et une partie du 05. Donc, en effet, ceux de la DLVA bénéficient aussi de la visibilité d'apparaître sur des territoires au-delà de la DLVA.
Et c'est un dispositif qui est évolutif. Vous proposez et vous allez développer une application.
Exactement, ça c'est le projet de 2023 pour plusieurs raisons, des premières raisons techniques et donc de proposer des services beaucoup plus en phase avec les attentes de l'ensemble de notre clientèle. Ça c'est le premier point, aussi en phase avec l'ensemble des habitants qui consomment l'information. Et le deuxième point, qui est un sujet un petit peu plus éthique, c'est que je pense que c'est important de pouvoir maîtriser la donnée qu'on fait circuler. J'ai aucune amertume et aucun problème avec Facebook ou Instagram, mais je pense que c'est important de pouvoir contrôler et maîtriser sa donnée.
Digne, le département au chevet du Pont des Arches.
Construit en 1894 par les Ponts et Travaux en Fer de Paris, ce pont sur la Bléone se caractérise par une construction métallique de type treillis et portique. Fréquenté par des milliers de véhicules, il est notamment un accès privilégié à la célèbre dalle aux ammonites de Digne. Sa largeur de 4,50 m à peine rend le croisement compliqué pour les voitures et absolument impossible pour les camions. Mais surtout, l'ouvrage souffre d'une corrosion importante qui entraîne un feuillage de l'acier il y a danger. C'est pourquoi le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a décidé de construire un nouvel ouvrage en aval dans le but de sécuriser les usagers et de permettre une meilleure circulation des voitures, poids lourds et vélos. Le département envisage de bâtir un ouvrage d'une largeur totale de 12,50 m, constitué de deux voies distinctes, plus un accès cyclable sécurisé par un muret en béton. Eliane Bareille, présidente du conseil départemental, est au micro d'Odile Frison.
Eliane Bareille, le pont des Arches va enfin subir des transformations qui sont plutôt indispensables pour la sécurité de tous.
Oui, tout à fait. C'est avant tout un problème de sécurité. Nous allons réaliser un nouveau pont d'une largeur très importante puisqu'il sera de 12,50 m, l'actuel étant de 4,50 m. Et ça va permettre bien sûr d'avoir non seulement deux voies routières qui vont permettre un croisement sans problème et un passage de poids lourd sans aucune difficulté, mais en même temps une voie de 3 mètres qui sera mise en sécurité par un mur qui séparera les voies routières et la voie cyclable. Donc ça permettra aux vélos de passer en toute sécurité, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui sur ce pont qui est très 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 étroit et quand même, il faut bien le dire, en très très mauvais état.
Donc c'est un projet qui existait déjà depuis quelques années et qui va enfin pouvoir voir le jour à partir du mois d'août, c'est ça, 2023.
Alors c'est un projet qui effectivement est travaillé déjà depuis de nombreuses années. Nous avons, lorsque je suis arrivée au conseil départemental, nous avons élaboré notre programme pluriannuel d'investissement, donc jusqu'à la durée, jusqu'à la fin du mandat. Dans ce programme pluriannuel, nous avons inclus le pont des Arches pour 11 millions d'euros, valeur estimation, ce qui ne veut pas dire que ça sera le coût définitif, pour 11 millions d'euros porté par la quasi-totalité par le département. Donc cette année, normalement, au mois d'août, on devrait pouvoir lancer les appels d'offres et réaliser le début des travaux, en tous les cas la mise en place. Il est prévu 15 mois de travaux, c'est-à-dire ça ramène la fin des travaux en 2024. Et dès cette année, nous avons inscrit 4 millions d'euros à notre budget pour permettre le lancement de ces travaux.
Et l'ancien pont ne peut pas être conservé, ça ferait trop de frais de le remettre en état.
Pour le remettre en état, y compris simplement pour une piste cyclable, il faut réaliser des travaux très importants et de mise en sécurité là aussi. Mais pas que, parce qu'il est très détérioré, donc il faut effectivement y faire des travaux qui se chiffreraient a priori autour des 2 millions à 2 millions et demi de travaux. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas porter en même temps un pont neuf qui va coûter quand même beaucoup d'argent au département. Et puis de l'autre côté, garder un pont très ancien qui va nécessiter certes des travaux immédiats, mais aussi des travaux d'entretien très importants dans les décennies qui vont suivre.
Cette route est très empruntée l'été et puis aussi au niveau touristique, c'est important aussi par rapport à la dalle aux ammonites.
C'est ça, c'est une route qui est très utilisée puisque nous avons fait un comptage, c'est 5000 véhicules jour l'été. Alors utilisée bien sûr par tous les riverains, dont les quartiers de Champoursin par exemple, c'est la proximité immédiate de Digne et puis c'est la proximité immédiate de la dalle aux ammonites qui est quand même un équipement remarquable, qui est extrêmement fréquenté, qui fait partie intégrante bien sûr du développement touristique de la communauté dinoise. La dalle aux ammonites, c'est un patrimoine géologique exemplaire qui fait la renommée du département.
Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ?
Je pense que j'ai à peu près résumé. Je pense que c'est un beau projet, utile pour la population, utile pour les usagers et j'espère qu'il va rapidement voir le jour.
Valoriser sa propre entreprise.
Affirmez vos talents pour développer votre entreprise. C'est en quelque sorte le slogan des universités des entrepreneurs que l'UDE 04 propose à ses adhérents. Après 2 années suspendues pour cause de crise sanitaire, une vingtaine de participants a suivi une formation de 49 heures proposée par l'Union des entreprises des Alpes-de-Haute-Provence. Mise en place il y a 10 ans, ce dispositif s'adresse aux chefs d'entreprise et aux cadres dirigeants. Avec des sessions animées par 4 intervenants de haut vol, l'Université des entrepreneurs prend le temps de poser des questions et d'échanger sur celles-ci. Exemple, quel type de dirigeant êtes-vous ? Quelle posture adopter face aux salariés, aux clients ? Ou bien encore, quel talent développer et comment entraîner vos collaborateurs dans l'aventure ? C'est bien le sens et le rôle de l'entreprise et de ses dirigeants qui sont au cœur du sujet, au-delà de l'économie stricto sensu. En outre, cette démarche crée des liens conviviaux et professionnels fructueux entre les participants issus de secteurs divers, mais aussi de générations différentes. Je vous propose d'écouter le président de l'UDE 04, Didier Long, qui accueillait récemment la dernière réunion 2022-2023 à l'éco-campus de Sainte-Tulle. Didier Long, vous présidez l'Union des entreprises des Alpes-de-Haute-Provence. Quel est l'objectif de cette université des entrepreneurs ?
C'est donner une autre vision aux entrepreneurs sur les différentes situations qu'ils peuvent vivre au quotidien. Donc leur donner une façon de voir les choses différentes, les faire grandir aussi, prendre du recul sur leur entreprise et manager différemment.
D'où vous est venue cette idée de créer cette dynamique ?
C'est un besoin. On se rend compte que le chef d'entreprise aujourd'hui, on le sent souvent trop pris dans son activité. Et on s'est rendu compte qu'on avait tous besoin à un moment donné de sortir la tête de l'eau, de lever la tête du guidon, comme on peut dire, pour prendre la hauteur et voir les choses différemment. Et l'idée, c'est d'amener des compétences par des formateurs qualifiés, reconnus, d'un grand niveau, pour justement changer tout ça et leur faire voir les choses différemment.
Quel est le profil des personnes qui suivent cette université ?
Profils divers et variés, que ce soit de la grande entreprise à la petite entreprise, à des secteurs tout secteur d'activité en fait, tout secteur d'activité.
Alors j'ai bien compris que c'est un système de conseil, mais en même temps de partage avec les personnes. C'est aussi une manière pour l'UDE d'alimenter son réseau.
C'est une manière d'alimenter son réseau, alors pas qu'à l'UDE, mais le réseau aussi de chaque entrepreneur. Aujourd'hui, ça crée un lien entre eux. Donc là, personne ne se connaissait au départ, ou ne se connaissait pas forcément. Et en fait, ça crée un lien. Et moi, ce que j'ai entendu dans cette session d'aujourd'hui, et tout le monde était très heureux de se retrouver, était très heureux des liens qu'il y avait envie de continuer la chose, parce que là, aujourd'hui, on a eu 4 intervenants, et je pense que c'est aussi intéressant d'en parler. Donc c'est Emmanuel Tonuti qui a démarré, Fanny Godard qui aujourd'hui termine, intervention de Julien Schmitt aussi, et André Valençon. Donc voilà, c'est des personnes qui ont de grandes compétences. Ils ont envie de continuer tout ça et de faire les choses même de façon beaucoup plus rapprochée et dans le temps aussi de pouvoir le continuer. Ouais.
Vous êtes dans l'émission parfaitement de l'Union des entreprises.
Parfaitement. Aujourd'hui, c'est d'aider l'entrepreneur dans ses difficultés. Et alors nous, bon, bien évidemment, on connaît tous les services de l'UDE, donc côté régalien avec les mandats, mais il y a aussi ce côté service, aider et avoir une cohésion entre nous. Nos activités sont toutes différentes, on l'a dit tout à l'heure, mais par contre, une entreprise, ça se gère quelque part de la même façon. Ça se manage un peu quelque part, donc avec la finesse de chaque entrepreneur qui est différente, avec, on va dire, des ADN qui sont un peu différents, mais en fait, dans la globalité, ça se passe de la même façon. Et là, on partage toutes les mêmes choses. Il n'y a pas de grosses entreprises, il n'y a pas de petites entreprises, il y a des entreprises avec des entrepreneurs et avec des collaborateurs. Donc il faut qu'il y ait une osmose qui soit faite dans tout ça.
Une remarque sur les personnes qui ont suivi cette formation très particulière, oui, des universités des entrepreneurs. Il y a beaucoup de jeunes et ça fait plaisir.
Mais c'est génial. Et à l'entrée de l'université, donc le jour de rentrée de l'université des entrepreneurs, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit je suis content aujourd'hui parce que j'ai vu vos pères, mères, à votre place il y a quelque temps. Et aujourd'hui, je vois les enfants. Donc c'est quelque chose qui dure et perdure. Et j'espère encore pour très très longtemps.
chevaux dans le feu de l'arène.
L'expo photo des chevaux et des hommes est accrochée à l'espace d'Ornano du musée gallo-romain de Sisteron jusqu'au 25 février. C'est une première et une nouvelle exposition réalisée par Jean-François Mutzig et Frédéric Massé. Les auteurs de ces clichés pris sur le vif sont des photographes talentueux et des voyageurs invétérés. Depuis de nombreuses années, ces deux aventuriers de l'image vont à la découverte de comportements humains authentiques. Leurs clichés s'attachent à montrer l'homme dans son activité quotidienne et à débusquer des valeurs rares mais sûres, l'harmonie et la paix qu'il entretient avec ses congénères et son environnement, notamment animal. Après Pêcheur d'Asie, c'est en Espagne qu'il nous entraîne. La Rapadas Bestas de Sabucedo est une joute mettant aux prises hommes et poneys sauvages. Hommes, femmes, enfants, adultes et aînés, tout le monde y participe. Un corps à corps intense dans l'arène du village où les plus âgés se chargent de la coupe des crins. Jean-François Mutzig et Frédéric Massé présentent l'exposition des chevaux et des hommes et leur association, les clichés de l'aventure, au micro de Chris Alessandri.
Donc des chevaux et des hommes qui présentaient cette fois-ci à Sisteron au musée gallo-romain et une des parties du travail global des animaux et des hommes que avec Jean-François Mutzig nous poursuivons depuis 2003 maintenant. Donc il y a eu des chevaux et des hommes qui a été présenté à Sisteron, il y a eu Pêcheurs d'Asie et maintenant des chevaux et des hommes. Il y aura un projet global sur environ 140 photos, 17 espèces qui sera le projet final des animaux et des hommes.
Jean-François, la relation avec les animaux et les hommes, c'est quelque chose que vous vivez complètement à 100%. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre la direction de l'Espagne et à vous retrouver carrément dans l'arène, on peut dire ?
Après les éléphants et après les pêcheurs, fallait changer un petit peu de sujet. Donc, je me suis orienté sur les chevaux et je me suis documenté donc sur l'Espagne, qui est un pays traditionnellement équestre. Et j'ai vu qu'il y avait une fête qui se passait chaque année, donc en juillet, en Galice, et où les hommes allaient chercher donc les chevaux dans les forêts, dans les collines, et les ramener ensuite au village pour leur raser donc les crins.
Et alors là, nous avons vraiment à faire, Frédéric, vous filmez, vous êtes à la caméra, il y a des scènes qu'il faut vraiment saisir et nous sommes dans des images violentes.
Alors, toute la difficulté de cette fête, c'est qu'effectivement, elle peut être qualifiée de violente, mais son but, c'est d'abord de faire vivre les traditions espagnoles. Et la rapadas bestas veut dire couper les crins des chevaux, et ancestralement, c'était fait pour faire des sommiers et des matelas. Maintenant, c'est fait pour préserver la race poney ou cheval de Galice. Les personnes qui s'occupent de cette association vermifugent les chevaux, les soignent, donc d'où l'idée de les faire redescendre au village pour pouvoir faire tout ça et créer une fête pour générer des fonds et préserver la race.
Et Jean-François, vous capturez alors vraiment l'événement, vous capturez l'image, vous êtes dans le feu de l'action et vous allez figer une image. Nous sommes dans un espace complètement différent du film.
Oui, la photo est différente du film et de l'image animée. Alors l'idée, c'est de saisir l'instant et c'est toute la difficulté dans ce genre de travaux et de reportages. Ça va tellement vite hein, par moment que on est même parfois un peu dépassé, quoi. On loupe des photos, hein. Mais sur un événement de cette ampleur, c'est capter l'instant, capter l'émotion, puis essayer de transmettre après tout ça, quoi.
Il y a justement une image complètement symbolique de cet événement que vous avez figé et qui est là à l'exposition.
Oui, il y a en fait, c'est une fête de tradition et une fête intergénérationnelle. Donc les jeunes éprouvent leur courage en sortant les poulains de l'arène. Les jeunes hommes, eux, font tout le travail de coucher les chevaux, de monter dessus, de faire le spectacle. Et les plus anciens sont chargés de couper les crins des chevaux et... Il y a une image qui a été primée justement dans un grand concours de photographes de Jean-François, qui est la passation des cisailles à crins entre deux pontes de la Rapa. Donc cette image n'avait jamais été faite auparavant, il y a toujours eu beaucoup de photos d'action, il y a beaucoup de photographes présents sur la Rapa, mais cette image est unique et Jean-François est le seul à l'avoir faite.
Jean-François, la relation entre les animaux et les hommes, c'est quelque chose qui vous fascine. L'Asie avec les éléphants, bon, fouille dans la sacoche du photographe, la trompe, etc. Ça vous fait beaucoup rire. Quel est l'instant qui a été percutant sur cet événement ?
Le moment, je dirais, où je suis descendu dans l'arène pour la première fois et où un cheval m'a fait tomber par terre. Donc j'ai mis quelques secondes avant de me relever et puis de me relancer après dans la photo, quoi. Parce que l'essentiel quand on est dans l'arène, c'est de faire l'image, quoi.
Pour le professionnel que vous êtes, c'est quoi une photo réussie ?
Bah, c'est celle qu'on va faire demain.
Et pour reprendre quelque chose que Jean-François dit souvent, 10% de technique, 20% de cadre et le reste d'émotion.
Chevalier des arts et des lettres, c'est pas rien comme distinction, ça s'obtient comment ?
Oh, ça fait déjà longtemps ça. Bah, comme ça, par hasard, ça vient et puis c'est bien, quoi. Voilà, après, c'est bien, je suis content d'avoir eu ce titre et puis voilà, mais il y a autre chose, hein. On va montrer autre chose maintenant. L'important c'est de partager notre passion, ce qu'on fait, la photo, et aujourd'hui à Sisteron, puisqu'on lance à la fois la saison et on lance cette nouvelle exposition, voilà, l'idée c'est de venir à la rencontre du public et puis voir comment il ressent un petit peu ce qu'on a pu faire pendant ces deux voyages, ces deux reportages qu'on a fait en Espagne.
Des chevaux et des hommes, Frédéric, Jean-François, comment définir, vous, en une phrase, ce que vous avez ressenti ?
L'émotion, notamment par rapport aux chevaux de feu, où là, on était proche de la suffocation, on voyait des chevaux glisser et passer à quelques centimètres de nous. Le trépied, l'appareil photo, ont d'ailleurs été touchés par des chevaux sans trop de dégâts, mais c'était chaud à tous les dans tous les sens du terme.
La trouille de me retrouver à l'hôpital, tout simplement.
Nous sommes dans des rites étranges quand même, vous l'avez ressenti comme ça ou pas ?
Oui, c'est des rites qui remontent au Moyen-Âge. Hein. C'était, ils ranaient les chevaux en fait à cette époque. C'était l'époque des grandes pestes, des grandes maladies, des grandes pandémies en Europe. Et ils ranaient les chevaux pour les sélectionner en fait. Parce qu'à cette époque-là, ils mangeaient aussi, ils mangeaient les animaux, ils mangeaient les chevaux. Donc c'était une forme de sélection. Alors l'expo se tient donc au musée gallo-romain à Sisteron. Elle est ouverte donc tous les jours sauf le dimanche et le lundi de 10h à midi et de 14h à 18h. Et elle est ouverte jusqu'au 25 février.
Oui, donc Jean-François Mutzig, Frédéric Massé, les clichés de l'aventure. Nous faisons à la fois de la formation photo et de l'animation auprès des publics défavorisés et de tous les publics.
Pour vous contacter ?
Les clichés de l'aventure sur les réseaux sociaux ou Jean-François Mutzig, et c'est très bien.
Les concerts de la capsule s'exposent à la MJC de Manosque.
Parmi les activités proposées par la structure culturelle et sociale, le club photo est emblématique. Depuis des années, des passionnés suivent les formations et conseils assurés par des bénévoles, eux-mêmes photographes, dans une ambiance conviviale. De plus, dans les murs de la MJC, la capsule est une scène dynamique de la région, d'où l'idée de couvrir par l'image les concerts proposés. Cela implique plusieurs contraintes, dont l'autorisation des artistes et la discrétion, afin de ne pas gêner les spectateurs. Et depuis plus d'un an, le club photo a accumulé des clichés superbes que les stagiaires affichent jusqu'au 28 janvier dans la galerie de la MJC. Des témoignages esthétiques par l'image, des chaudes soirées musicales. Une idée excellente et une exposition réussie que l'on doit à l'équipe du directeur Nicolas Gervaux et plus particulièrement l'animateur de l'atelier photo numérique Stéphane Lehaut et Jody Mastro qui a assuré la présentation de ces flashbacks. Ces derniers répondent à mes questions. Stéphane Lehaut, vous êtes animateur du club photo de la MJC de Manosque, un club qui présente une exposition sur les concerts qui se sont déroulés à la MJC.
Oui, exactement. C'est donc des photos de tous les concerts qui sont déroulés depuis septembre 2021 jusqu'à fin 2022. Et on est présent à chaque concert pour faire des photos qui sont utilisées d'ailleurs par la MJC ou données aux artistes. On le fait bénévolement et pour le plus grand plaisir de tout le monde, nous pour les photos et les artistes qui peuvent utiliser les photos derrière et la MJC également.
Vous leur demandez leur autorisation aux artistes justement ?
Oui, tout à fait. La MJC demande l'autorisation aux maisons de production avant, qu'on a généralement. Parfois, c'est limité aux trois premiers morceaux, et très très rarement, très 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 rarement, c'est refusé.
Comment ça se passe après? Vous travaillez avec des flashs, sans flashs? Vous êtes devant, vous gênez le public ou pas?
Alors, on limite volontairement le nombre de photographes à 2 ou 3 maximum, suivant la salle. On a des t-shirts sombres pour être moins visibles et on se met sur les côtés, on essaye de gêner le moins possible le public. Et ça se passe très bien, on n'a jamais eu de soucis de ce côté-là. Et bien sûr, pour les artistes, on n'utilise jamais les flashs et on essaie d'avoir des modes de déclenchement silencieux quand ce sont des artistes qui font de la musique qui n'est pas forte, si on peut dire, pour pas qu'ils entendent le déclenchement. Enfin, bon, on se fait le plus discret possible, quoi.
Quand vous avez pris vos photos, après, il faut les développer, les tirer de manière classique ou numérique, peu importe. Comment ça se passe? Il y a un choix critique qui est fait en équipe?
Alors effectivement, le gros travail, c'est après le concert, parce que le concert, ça nous prend une soirée. Par contre, sélectionner, travailler les photos, ça nous prend plusieurs jours. On le fait le plus vite possible pour que la MJC puisse en disposer pour la communication. Et nous, ensuite, à l'intérieur du club photo, on sélectionne une photo qu'on juge la plus représentative et la plus réussie du concert, et ce qui donne lieu à des échanges qui sont profitables pour tout le monde pour progresser.
Je suppose que les photographes sont ravis quand ils savent que leurs photos sont exploitées par les artistes et leurs agents.
Ah, tout à fait, oui. Alors on est bénévole, on n'en retire rien financièrement, bien sûr, mais par contre on en retire et le plaisir d'être là, le plaisir d'échanger avec les artistes parce qu'on les rencontre avant les concerts et c'est toujours très riche. Et effectivement, si une photo est sélectionnée ou utilisée par la presse derrière ou utilisée par les artistes, ça nous fait vraiment plaisir. Et surtout qu'il y a certains artistes qui nous font des retours pour nous remercier. Là, c'est vraiment agréable.
Comment ça passe, les tirages? Qui est-ce qui les fait?
Les tirages pour l'exposition ont été faits par la MJC, là.
À vos côtés, justement, Jody Mastro, qui est en service volontaire ici à la MJC. C'est vous qui avez accroché ces photos. Première question d'abord, un service volontaire, qu'est-ce que c'est très exactement?
Alors, un service volontaire ou service civique, c'est une mission qui va durer de 6 à 12 mois. Et donc, on va aller auprès d'une association, auprès d'une entreprise. Et donc, ça ressemble un petit peu au stage, un petit peu à un travail, c'est un petit peu entre les deux. Et on découvre un peu le milieu, le métier. C'est très agréable, c'est une bonne expérience pour la suite des études. Voilà.
Vous aviez déjà monté une exposition, par exemple?
Non, pas du tout, c'était la première. On m'a donné la mission de le faire et c'était la première.
Comment ça s'est passé?
Très bien. Bon, après, c'est beaucoup, beaucoup de réflexions, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de casse-tête aussi, un peu, quand on monte les cadres, quand on assemble l'exposition, on réfléchit beaucoup à comment faire dialoguer les tableaux entre eux, quelle dimension prendre, quelle photo sélectionner aussi pour que ça rende le mieux possible. Mais c'est une très, très, très bonne découverte.
Est-ce que vous êtes anxieuse? Nous sommes le jour du vernissage. Dans quelques minutes, il va y avoir le vernissage de cette exposition. Est-ce que vous allez être curieuse des relations et surtout des réactions des personnes?
Oui, oui, tout à fait. J'ai hâte de voir comment les gens trouvent l'exposition, un petit peu, ouais, voir leurs réflexions. C'est intéressant de voir comment les gens auraient réfléchi, auraient vu l'exposition de leur côté. C'est la première fois que j'en fais, donc j'ai hâte.
Un service civique à la MJC de Manosque, c'est positif?
Oui, très positif. Bon, après, il y a ma tutrice à côté, donc je ne peux pas dire autre chose. Mais oui, c'est très positif. Je n'ai pas fait que l'exposition. J'ai aussi travaillé dans les concerts, dans l'organisation, dans la communication sur les réseaux sociaux, l'affichage. On bouge beaucoup, donc c'est super. Et au début, je pensais pas découvrir tout ça. Donc, c'est très positif.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci Louis pour la régie et à la semaine prochaine.